Notre monde est violent, c'est un peu un lieu commun de le dire, parce que nous le savons bien en regardant l'histoire, en regardant l'actualité, en regardant tout ce qui se passe dans le monde ou dans notre société, nous voyons bien combien il y a de tensions, de conflits, d'injustices, de guerres, de souffrances, de violences. Et quand nous regardons nos propres relations, nous sommes parfois pris dans des situations complexes de tension ou d'agressivité. Et quand nous regardons au fond de nous-mêmes, nous sommes souvent empêtrés dans des sentiments contradictoires entre ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe, les souffrances que nous avons, les peurs que nous avons, la colère, l'agressivité. Oui, c'est un lieu commun de dire que nous sommes plongés dans la violence. C'est un lieu commun de le dire, mais ce n'est pas un lieu commun de le vivre. Et la question que nous avons souvent, c'est comment vivre dans ce monde et dans nos vies, comment traverser les moments de violence, comment dépasser la violence. C'est une question qui n'est pas rhétorique, c'est une question existentielle très très forte. C'est une question qui est vieille comme l'humanité. De tout temps, les hommes et les femmes se sont coltinés à cette question. Comment dépasser la violence? Depuis toujours. Depuis au moins le temps de Noé. Noé dont vous connaissez à peu près l'histoire, c'est-à-dire l'histoire du déluge. Cette colère de Dieu qui s'est abattue sur la terre et qui a décidé de tout détruire. Le déluge qui dure pendant des semaines et des semaines, qui dure pendant plusieurs chapitres, parce que traverser la violence, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et lourd. Et puis voilà que Noé met les pieds sur la terre sèche une fois que le déluge est terminé. C'est une histoire dont nous ne connaissons pas l'arrière-fond historique. Mais peu importe, car ce qui est essentiel dans ce genre de texte, c'est ce que veut nous dire le texte. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ne sont pas des textes qui sont là pour nous décrire chronologiquement le début de l'humanité, mais qui sont là pour répondre aux questions fondamentales que l'être humain se pose par rapport à ce qu'il vit. Comment est-ce qu'il est possible de vivre? Comment est-ce qu'il est possible de gérer sa liberté? Comment est-ce qu'il est possible d'être en relation avec d'autres? Quelle est la valeur de la parole? Comment la fraternité peut être difficile à traverser? Comment la violence est souvent là? Et le récit de Noé, c'est cette question de la violence qu'il prend à bras le corps. C'est un épisode qui se situe donc dans la suite des chapitres qui précèdent, qui nous disent cette longue traversée de l'humanité à travers la difficulté de vivre. Au début, tout était bien. Premier chapitre de la Genèse, la création se déroule dans la sérénité, dans l'ordre, dans la confiance, dans l'espérance, dans la joie. Tout est très bon. Mais très vite, les choses dégénèrent. Dès le premier couple, dès les premiers hommes et femmes, il y a quelque chose autour de la parole pervertie, de la parole de méfiance, de soupçon, de la volonté de posséder le bien ou le mal. Et puis, vous connaissez ces récits. C'est l'homme et la femme qui s'emparent de ce qui est inatteignable, c'est-à-dire qui essaient de devenir Dieu. C'est la catastrophe, c'est la fin de l'innocence, c'est la honte. C'est à la deuxième génération Caïn qui tue son frère Abel, c'est le meurtre. Et puis à chaque génération qui va suivre, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire jusqu'à ce que Dieu décide d'en finir. Il en a marre avec cette humanité qui ne fait que amplifier la violence. Alors Dieu lui-même, on pourrait dire, est submergé par la violence, puisque la solution qu'il trouve, c'est de tout détruire. C'est presque une histoire qui nous dit que la violence entraîne la violence et que c'est un cercle vicieux qui ne peut se terminer que par la fin de tout, par la destruction. C'est un récit de violence. Mais voilà, ce n'est pas un récit qui est là pour simplement constater la violence. Ce n'est pas un récit qui se complaît ou qui se lamente. C'est un récit surtout qui est orienté vers le fait que, à travers cette violence, il y a un homme, Noé, avec les siens et avec quelques représentants de chaque espèce animale, qui va traverser ce déluge, qui va survivre, qui va poser le pied sur la terre sèche quand le déluge est terminé, et qui, par lui, va être comme une création nouvelle qui surgit. C'est à ce moment-là que nous prenons le récit que nous venons d'entendre Tine nous lire. Quand Noé met les pieds sur terre et que donc une création nouvelle surgit. Dans ce monde de violence, dans cette histoire de violence, eh bien c'est un récit qui nous donne de l'espérance. Et il nous donne trois pistes pour que nous puissions nous-mêmes traverser, dépasser cette violence qui est autour de nous ou en nous. Alors la première piste dans ce récit, c'est d'abord de prendre acte que la violence existe. Ne pas être dans le déni, dans la fuite, dans le fait de relativiser, mais non, on dit, mais bon, quand même, on est bon, il y a quand même le bien, l'emporte largement, il fait beau, c'est plus le déluge. Non, c'est de prendre à bras le corps cette question, de nommer la violence. C'est ce qui se fait au début du récit que nous avons entendu. Au début, ça commence dans la violence, dans le meurtre, puisque Noé, à peine les pieds sur terre, va faire un sacrifice. Il va prendre un des animaux qui a survécu au déluge pour le tuer, pour en faire un holocauste, nous dit le texte, c'est-à-dire aussi pour le brûler entièrement, pour que la fumée monte auprès de Dieu. Alors on ne sait pas, le texte ne nous dit pas pourquoi Noé fait ce sacrifice. On ne sait pas si Noé a des choses à se faire pardonner. On ne sait pas si Noé a peur que ça recommence, alors il veut apaiser Dieu. On ne sait pas si Noé a envie de dire merci pour la vie nouvelle. On ne sait pas, mais peu importe. Ce que l'on sait, nous dit le texte, c'est que Dieu entend ce geste de prière que fait Noé, et Dieu y répond. Et il y répond par un engagement qui est celui de ne plus jamais détruire la terre. C'est un engagement très très fort que prend Dieu en réponse à la prière de Noé, mais ce n'est pas un engagement naïf. Dieu n'est pas naïf, inconscient. Dieu sait bien que la violence est désormais là. Il le dit d'ailleurs, vous l'avez entendu au verset 21, le cœur des hommes est disposé au mal depuis leur jeunesse. C'est-à-dire fondamentalement, il y a en l'homme quelque chose qui est tourné vers le mal et vers la violence. Et ça, nous le savons par nos propres histoires, par l'humanité, par les travaux des chercheurs aussi. Et je pense juste en passant aux travaux de René Girard qui a travaillé sur la question de la violence et notamment de la violence mimétique, où il nous explique que nous nous disputons facilement pour posséder la même chose, mais c'est pas que nous voulons posséder la même chose, c'est que nous voulons posséder l'autre, que nous voulons être plus forts que l'autre et le dominer. Quand nous mettons deux petits enfants, tout petits, dans une même pièce, avec plein de Lego, de la même forme et de la même couleur, eh bien très vite ils finissent par se disputer pour avoir la même pièce. Parce que l'enjeu, c'est bien de savoir lequel des deux va pouvoir être le plus fort que l'autre. Dès notre toute petite enfance, il y a quelque chose comme ça de violent en nous, dans notre humanité profonde. Le nommer, le reconnaître, le dire, c'est un premier point extrêmement important. C'est un premier enseignement que je trouve dans ce texte. On ne peut pas traverser ou dépasser la violence sans prendre acte qu'elle existe. Prendre acte, ça veut dire la dire, mais ça veut dire aussi essayer de comprendre ce qui se vit, d'essayer d'analyser les racines, les causes de la violence. Ça peut être des causes psychologiques en chacun de nous, ça peut être des causes anthropologiques, c'est-à-dire qui nous dépassent largement en tant qu'individus, ça peut être des causes sociétales, comment nous sommes organisés, ça peut être des causes politiques, ça peut être des causes économiques, des causes religieuses aussi, nous le savons bien. Enfin, il peut y avoir des tas d'éléments qui nous poussent à vivre dans la violence. Et vous savez que la violence est ce cercle vicieux qui fait que les situations structurelles de violence entraînent de la révolte, qui entraînent de la répression, qui entraînent de la révolte, et c'est sans fin, jusqu'à la guerre et jusqu'à l'extermination. Je passe là-dessus, on pourrait ensemble prendre le temps d'analyser tout ça, mais je le cite juste, c'est le premier enseignement que je trouve dans ce texte. Dire, reconnaître que la violence existe, sans pour autant l'accepter telle qu'elle est, la reconnaître pour pouvoir la refuser. Ce que fait Dieu, je sais que la violence est dans le cœur de l'être humain, mais je m'engage à ne plus détruire la terre. C'est le premier point qui me semble important. Mais ce n'est pas un point suffisant, il ne suffit pas de dire voilà, la violence existe, on peut essayer de trouver les causes, on peut essayer de refuser d'être emporté par ces causes-là. Il nous faut un deuxième élément pour pouvoir dépasser la violence. Et ce deuxième élément, il nous est donné également dans ce texte, c'est la nécessité, parce que nous sommes des êtres humains, des êtres de pulsion, c'est d'avoir un cadre qui bride nos pulsions. C'est ce que nous appelons une loi, quelque chose qui est plus fort que nous, en amont de nous, et qui nous empêche de déborder. C'est ce qui se trouve dans ce texte, au début du chapitre 9, donc dans la suite de ce sacrifice et puis de la promesse de Dieu, il y a des versets, vous pourrez les relire chez vous, qui ressemblent étrangement aux versets du premier chapitre de la Genèse, comme s'il y avait un recommencement de la création. L'homme est fait à l'image de Dieu, il est appelé à se multiplier sur la terre, c'est-à-dire à démultiplier la vie, il est appelé à être responsable de la terre, c'est comme au début. Mais ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas une régression, parce qu'entre-temps, la violence est passée par là. Entre-temps, cette réalité est là, et on ne peut plus recommencer comme avant. C'est une deuxième création, on pourrait dire, qui tient compte de cela. Et d'ailleurs, si vous lisez bien le texte, dans le premier chapitre de la Genèse, quand les êtres vivants sont faits, sont créés, que ce soit les animaux ou les êtres humains, ils sont tous végétariens. Même les lions ou même nous, tout le monde ne mange que de l'herbe. Et puis au chapitre 9, quand il y a cette nouvelle création, eh bien c'est plus pareil. Les animaux vont se manger les uns les autres, et l'être humain va tuer des animaux pour se manger. La violence est là. Mais parce que la violence est là, justement, il faut lui mettre une limite. Et c'est ce que dit Dieu dans ses premiers versets du chapitre 9. Il met en place des règles. Vous allez manger de la viande, mais ne mangez pas du sang. C'est-à-dire, ne vous emparez pas de la vie. Il va dire, ne tuez pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la vie est centrale. Il va donner ainsi des éléments pour dire que la vie de l'autre est la limite. C'est une limite qui est très fortement posée, vous l'avez lu dans le texte, puisque Dieu rappelle que quiconque met à mort quelqu'un, à son tour, sera emporté par la mort. Alors très certainement, il s'agit dans un texte il y a 2500 ans, de quelque chose qui met en place une peine de mort, qui à l'époque est quelque chose pour mettre fin à la violence. Heureusement, nous ne sommes plus dans la même culture, nous avons dépassé cette manière de sanctionner, mais reste important la question d'une limite, d'une sanction, d'une justice, parce que Dieu n'est pas naïf, nous sommes appelés à ne pas l'être non plus. Parce que la violence existe, il faut des règles de vie communes, il faut pouvoir vivre ensemble, il faut une loi. À partir de ce récit, je vous le cite juste en passant, la culture juive a sorti de ce texte ce que l'on appelle les lois noachiques. Noachiques, ça veut dire qu'ils viennent de Noé. Les lois noachiques, c'est 7 règles qui sont là pour dire, voilà, des lois qui s'appliquent à tout être humain, à toute civilisation, en particulier la nécessité d'une justice, l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre. Je fais une petite parenthèse, quand ce texte sera sur le site, je mettrai en note ces 7 lois noachiques, comme ça vous pourrez les voir. Parce que je passe là. Mais simplement pour dire qu'il y a là quelque chose d'une loi fondamentalement reçue par les lecteurs de ce texte. Et ça nous dit, donc c'est le deuxième enseignement, combien il est important d'avoir une loi. Alors bien sûr, une loi n'est pas forcément en soi quelque chose de juste et quelque chose qui régule la violence. Il peut y avoir des lois mauvaises, des lois qui favorisent l'injustice, ou le racisme, ou la discrimination, nous le savons. La loi n'est pas bonne en soi, mais quand la loi est bonne, c'est parce qu'elle est juste, parce qu'elle permet de vivre ensemble, et elle est nécessaire. Quand nous voulons vivre ensemble, il nous faut des règles de vie communes. Voilà, il nous faut nommer la violence, il nous faut des règles pour pouvoir ne pas être submergé par elle, mais ça ne suffit pas encore. Il y a une troisième dimension, troisième piste, troisième plan qui nous est proposé par ce texte. Après avoir pris acte que le mal est dans le cœur de l'homme dès l'origine, après avoir posé des lois et des interdits, Dieu, dans la suite du texte, va faire alliance. Sept fois le mot alliance revient en quelques versets. C'est la première fois dans l'histoire biblique qu'il y a une alliance. Et cette alliance, comme toute alliance, elle est quelque chose qui induit une relation. Quand il y a alliance, c'est forcément entre deux personnes ou deux groupes. Il y a forcément quelque chose d'une vie partagée, d'une relation, d'une parole échangée. Il y a quelque chose pour dépasser la violence qui passe par la relation. Et vous savez que Martin Luther King, dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps, est quelqu'un qui non seulement nommait les situations de violence, qui non seulement appelait à des lois justes, mais qui aussi appelait à un engagement concret dans ce qu'il appelait la non-violence, c'est-à-dire pas l'absence de violence, mais la subversion de la violence en essayant de gagner son adversaire, en combattant contre une injustice pour se réconcilier avec l'adversaire, avec l'horizon d'une création nouvelle, d'une humanité nouvelle, régénérée, et dans l'amour et dans l'espérance. C'est à cela que Dieu s'engage dans le récit, en faisant alliance. Et il donne un signe, c'est l'arc-en-ciel, donc nous savons tous qu'il y a une explication physique à l'arc-en-ciel, mais qu'en même temps c'est un signe que symboliquement, l'arc-en-ciel nous rappelle autre chose que simplement la fin de la pluie et le retour du soleil. Ça nous dit cet engagement que Dieu a pris de ne plus jamais détruire l'humanité et la création. C'est un engagement d'ailleurs que Dieu prend pour l'ensemble de la création, pas que pour les êtres humains. Il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans cette alliance que fait Dieu, dans cet engagement qu'il prend, c'est que c'est lui qui s'engage, sans condition. Et quand il place l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est pour se faire mémoire à lui-même de cet engagement. C'est Dieu qui s'engage. Il ne conditionne pas son engagement à notre engagement. Mais bien sûr, ça appelle notre engagement en réponse, en suite, en logique. Nos engagements pour un univers réconcilié, pour des meilleures relations entre les hommes et les femmes dans ce monde, eh bien c'est dans la suite de l'engagement de Dieu, c'est porté par l'engagement de Dieu. Voilà trois pistes. Nommer la violence, établir des règles de vie pour la canaliser, et puis lutter pour plus de justice, de relations entre les êtres humains. C'est universel ce que le texte de la Genèse nous dit. C'est pour tous les hommes. D'ailleurs, symboliquement, Noé est le père de tous les hommes qui vont suivre. Il est fondamentalement quelque chose qui désigne l'humanité. C'est un récit universel. C'est basique pour toute vie ensemble, quelles que soient nos opinions, nos cultures, notre foi. Pour les croyants, ce n'est pas spécialement chrétien. L'histoire de Noé, elle appartient aussi au judaïsme. Elle appartient aussi à l'islam. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous avons cette conviction que l'engagement que Dieu a pris au temps de Noé, cet engagement unilatéral et définitif, et lucide, il l'a parachevé à la croix. Quand le Christ meurt sur la croix, c'est Dieu qui va jusqu'au bout de cet engagement dans la violence, en étant lui-même la victime. Mais pour pouvoir ouvrir un chemin de vie par la résurrection, pour pouvoir dépasser cette violence et appeler à l'espérance, pour ouvrir une création nouvelle. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que nos engagements, qui sont à la fois dans ce monde tel qu'il est, qui sont dans ce que nous pouvons construire ensemble, vaille que vaille, qui sont portés par l'espérance, et bien ces engagements, c'est en Christ qu'ils sont complètement portés, nourris, enracinés, ressourcés. Voilà ce qui nous appelle à rester espérants, à rester debout, à rester confiants, à nous engager dans tout ce qui, dans ce monde, peut donner plus de justice, de paix, de solidarité, moins de violence, de haine ou de souffrance. Avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, car c'est lui qui s'est engagé avec nous pour cela. Amen. Au moment où nous allons partager le repas du Seigneur, je vous invite à la prière. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Père Saint, Dieu plus grand que notre cœur, Dieu au-dessus de nos pensées, Dieu au-delà des frontières, des pays et des océans. Oui, il est juste et bon de te remercier en tout lieu où se lèvent des hommes et des femmes pour marcher dans le droit, la justice et l'amour, pour tendre à l'étranger une main fraternelle, pour briser les barrières des haines et des méfiances séculaires. Oui, il est juste et bon de te chanter quand se répand comme une eau vivifiante au milieu du désert l'esprit de paix que Jésus a promis, l'esprit de joie qui nous accorde. Père de tous les êtres humains, rassemble nos vies et rassemble ton peuple à l'heure où nos voix s'unissent pour proclamer ta gloire. Amen. Et je vous invite à vous lever pour poursuivre cette prière dans le chant.